Reprenons les choses un peu, on les avait laissées dans la dernière capsule où j'avais donc évoqué Raw, la fameuse revue créée par Art Spiegelman et Françoise Mouly en 1980. Pour les éditeurs européens, c'est évident que c'était quelque chose qui ne correspondait pas aux standards habituels, puisqu'on avait un objet au statut difficile à cerner, avec une périodicité qui était irrégulière, avec des objets extrêmement luxueux, très différents de ces objets presque jetables qui étaient les mensuels et plus encore les hebdomadaires. Donc je pense que ça va vraiment percoler dans les cerveaux des jeunes auteurs européens et américains d'ailleurs, parce qu'on va avoir d'autres anthologies qui vont apparaître aussi. Et donc apparaît là une autre forme qui peut-être se rapproche aussi peut-être plus de revues littéraires par exemple. Ici clairement on affiche des ambitions artistiques très fortes, alors que beaucoup de revues qui a précédé, hein, même à suivre, qui avaient une ambition littéraire, restaient quand même des objets qui avaient pour vocation de toucher un très large public et qui étaient aussi distribués en kiosque, alors qu'ici, on va voir apparaître des revues qui sont pour l'essentiel vendues dans les librairies et surtout les librairies spécialisées. Ceci dit, on a quand même différentes formes parce qu'on va trouver effectivement des anthologies très luxueuses comme Frigo Revue, par exemple. Notamment le premier numéro, je me souviens, qui était sérigraphié, qui était vraiment un objet très très soigné. Des revues comme Atrabile, comme Lapin, Ego Comics, qui reprennent un peu, je déteste ce terme, mais le format roman graphique, hein, donc qui s'inscrivent très bien aussi dans le catalogue de l'éditeur. On voit bien que c'est le même type d'objet, parfois avec des maquettes très très semblables, ça ressemble plus à un bouquin qu'à un périodique. Mais il y a quand même aussi des revues, enfin je pense à Ferraille par exemple, qui était une des rares tentatives véritablement passionnantes d'essayer de recréer une revue qui avait vraiment, me semble-t-il, le potentiel pour toucher un public assez large. Bon, il y avait des problèmes de distribution, me semble-t-il, aussi, mais il n'y a rien à faire. Je pense que quand, dans les années 2000, on voit Ferraille illustré entre Fluide glacial et Psychopathe, moi, il me semble que Ferraille les écrase tous, donc il y a quelque chose qui est un petit peu incompréhensible là-dedans. On peut peut-être, à gros traits, refaire un petit peu une petite chronologie de ces revues issues des éditeurs dits alternatifs, hein, qu'on situe souvent traditionnellement là, vers 1990. Notamment une revue fondamentale qui est suisse, qui est Strapazin, qui va déjà exprimer cette exigence qu'on trouvait dans Raw et que vont prendre les éditeurs indépendants, à savoir de privilégier un travail d'auteur, de privilégier l'expression de toute une série de voix individuelles. On va moins fonctionner par famille de styles comme le faisait par exemple Spirou, même Métal Hurlant, on sentait qu'il y avait quand même des connexions entre différents styles. Ici, on va peut-être davantage privilégier des expressions véritablement individuelles. Chacun fait entendre un son qui est singulier. Autre revue qui est importante aussi, qui est Madris, qui apparaît à la toute fin des années 80, dirigée dans la ville de Madrid, par l'écrivain Felipe Cava, qui va être le rédacteur en chef et fournir aussi pas mal de scénarios pour beaucoup d'auteurs. On est là à la fin de cette époque qu'on appelle la Mobida, que j'avais déjà évoqué avec El Bibora par exemple. On est dans la suite de ça, revue qui va privilégier ce qu'on peut appeler, enfin le terme mériterait d'être nuancé, mais enfin j'utilise un peu par facilité, de poésie dessinée, de volonté peut-être davantage véhiculer des émotions que d'amener un récit au sens le plus fort du terme. Mélangeant aussi la poésie, la photographie, des choses qui relèvent plutôt d'illustration. Revue qui va être très importante, notamment pour les auteurs belges, puisque paraîtra à la fin des années 80, quelques années plus tard, une revue comme Moka, mais qui aura un seul numéro, lancé par Éric Lambé et Alain Corbel, et qui va servir un petit peu de matrice à ce qui deviendra les éditions Fréon et puis Frémoc quand ils vont fusionner avec Amok. Il y a sans doute d'autres expériences qui ont préparé ça, mais enfin ces deux-là méritaient vraiment d'être soulignés. Puis dans les années 90, on voit apparaître, bon, notamment en francophonie, ce que Jean-Christophe Menu appellera plus tard les indépendants historiques, et beaucoup d'entre eux, que ce soit l'association Ego Comics, Atrabile, Fréon, Amok, auront chacun leur revue, leur anthologie dans les premières années. Ce qu'on ne peut manquer de remarquer, c'est que si ces revues semblaient très bien fonctionner dans les premières années, on sentait qu'il y avait vraiment une énergie et que chacune de ces publications était une manière de montrer un état des lieux de ce qui se fait au sein de chacun de ces collectifs, de finalement montrer une politique éditoriale, imposer une poignée d'auteurs, et chaque éditeur avait un petit peu sa petite dizaine de créateurs auxquels ils étaient parfaitement identifiés. On voit que petit à petit, pratiquement toutes ces revues sont entrées en crise à un moment donné. Plusieurs ont disparu. Des choses comme le Cheval sans tête ou Frigo ont disparu depuis très très longtemps. Lapin a connu là aussi une histoire éditoriale assez erratique, avec des changements de formule, des mises en sommeil plus ou moins longues. Et même les éditeurs qui ont toujours ces revues anthologies se posent la question de leur avenir. Alors, il n'y a pas d'explication définitive à cela, mais c'est vrai que c'est des objets qui sont très longs à réaliser. Ça concentre énormément d'individus avec tous les problèmes que ça peut engendrer. C'est des objets relativement chers, en tout cas si on les considère comme une revue à l'égal des périodiques qui avaient précédé, effectivement. C'est des auteurs qui ne sont souvent pas payés aussi, donc sans doute que petit à petit, ces questions-là peuvent entrer en ligne de compte aussi. Puis pour des raisons qui restent un peu obscures, ça se vend extrêmement mal, alors qu'une anthologie, c'est génial, parce que c'est l'occasion rêvée de découvrir un très grand nombre d'auteurs en même temps. Bon, ce qui se passe, c'est que tous ces éditeurs ont fini par développer un catalogue qui est de plus en plus important, donc ont mis aussi davantage d'énergie dans des ouvrages qui étaient réalisés par un seul auteur. Alors, le constat qu'on peut faire par rapport à ça, je ne sais pas s'il faut faire nécessairement un constat amer, parce que d'abord, tous ces autres projets sont généralement aussi passionnants que l'était celui qui animait ces anthologies au départ, parce que voilà, beaucoup d'auteurs, à un moment donné, ont envie aussi de s'exprimer sur des formats plus longs, et donc, bon, c'est ce que beaucoup d'éditeurs disent, ça devient très difficile de motiver les créateurs à continuer à publier dans ces anthologies. Mais d'autre part aussi, même si le paysage éditorial, Dieu sait s'il a évolué depuis une vingtaine d'années, il est clairement très 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 encombré, mais ceci dit, si on cherche, on se rend compte que c'est encore là que ça se passe. Il suffit de se balader dans la bulle fanzine ici à Angoulême, ou chez les éditeurs alternatifs, on voit toujours qu'il y a une poignée de personnes, une bande de copains, des gens qui sortent d'une école d'art, c'est quand même souvent la voie la plus évidente pour matérialiser cette énergie débordante qui caractérise souvent les débuts des aventures éditoriales. Et avec la nécessité permanente de repenser ces modèles, évidemment. Même si ce qu'on appelle parfois les indépendants historiques semblent tous rencontrer des difficultés à pérenniser leur revue quand elle existe encore, le phénomène ne me semble pas mort du tout. Il y a un tas de choses. Alors, je pense à des noms en vrac comme ça, comme Orang à Hambourg, encore que je viens d'entendre dire que la revue allait aussi s'arrêter, ou Canicola à Bologne, ou plus récemment des choses comme Nyctalope, comme Arbitraire, Les Belles Illustrations à Strasbourg. Escarquillette, puis par exemple les Cuches, cette revue estonienne, ou No Bro à Londres, qui est là aussi, qui est aussi une anthologie tout à fait passionnante. Il y a évidemment pas de modèle idéal définitif. Hein, je tentais de l'évoquer dans les différentes capsules qui ont précédé. Il y a eu des époques où, semble-t-il, c'était l'hebdomadaire pour la jeunesse qui prenait le devant. Les années 60-70 ont été celles des mensuels. Les années 90-2000, celles de ces anthologies portées par des éditeurs alternatifs. Et donc, ce qui est passionnant, c'est qu'évidemment, les modèles sont perpétuellement à réinventer parce que les données changent. Et donc, il faut trouver autre chose.